France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. L'Espagne plonge un peu plus dans l'incertitude politique après les élections législatives d'hier, le quatrième scrutin en 4 ans. Le parti socialiste espagnol arrive en tête, mais sans majorité absolue. Vox, le parti d'extrême droite, devient lui la troisième force politique du pays. Face à la crise en Catalogne, il réalise une percée totalisant 15% des voix, 6 mois après son entrée en force au Parlement. Pedro Sanchez, le socialiste premier ministre sortant, s'est engagé hier soir à débloquer la situation politique et à former, dit-il, un gouvernement progressiste, ce qu'il n'avait pas réussi à faire après le scrutin du mois d'avril dernier. L'Argentine, Cuba et le Venezuela dénoncent un coup d'État après la démission du chef d'État bolivien Evo Morales. Après 3 semaines de contestation contre sa réélection, le plus ancien président d'Amérique latine a été chassé par la rue, l'opposition et l'armée. Il dénonce dans la foulée, il a démissionné après plusieurs ministres. Evo Morales dénonce ce qu'il décrit comme un mandat d'arrêt policier illégal qui le vise en ce moment. Hier soir, la présidente du tribunal électoral de Bolivie avait été arrêtée sur ordre du parquet. Il enquête sur des irrégularités commises lors du scrutin du mois dernier. L'Agence internationale de l'énergie atomique doit publier aujourd'hui son dernier rapport sur le nucléaire iranien, alors que Téhéran a un peu plus réduit ses engagements ces derniers jours. Hier, notons par ailleurs en Iran toujours que le président Hassan Rouhani a annoncé la découverte d'un nouveau gisement de pétrole. Les réserves s'étendent sur 2400 km². Elles seraient estimées à 53 milliards de barils. 13 500 personnes de la gare du Nord jusqu'à la place de la Nation à Paris et un slogan repris par ces personnes, « Vivre ensemble, c'est urgent ». Cette marche contre l'islamophobie voulait dénoncer la stigmatisation des musulmans. Elle a eu lieu hier, une marche controversée qui a divisé la gauche. Et puis notez que la France rend hommage à ses soldats morts dans les opérations extérieures. Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui un mémorial à Paris. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 6h30.
Voir le monde, au plus près, LSD, la série documentaire, Perrine Kervran.
Un an après l'acte 1 du mouvement des Gilets jaunes, LSD est allé dans les cafés du coin tendre son micro et confier des enregistreurs à des habitants et habitantes de la Meuse, des Cévennes, de l'île de Groix et de la Creuse pour capter l'air du temps et poser cette question « Et vous, comment vivez-vous »
Radio Café, chronique française, LSD, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
France Culture présente Le bel été. Robert, Simon et Sophie vivent en Normandie. Nessim va entrer dans leur vie, suivi de Mohamed, Ahmed et Wally, des adolescents que la situation politique de l'Afrique menace. Pierre Creton saisit de manière sensuelle et engagée le quotidien de la petite assemblée où circulent échanges de paroles et libres désirs, le temps d'un bel été. Le bel été de Pierre Creton, à partir du mercredi 13 novembre au cinéma. Un partenariat France Culture.
Il est 6h03 et en ce lundi 11 novembre, pour bien commencer la semaine, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel. Tous les lundis, c'est l'actualité littéraire. Et aujourd'hui, je reçois Anne Poli pour son premier roman paru chez Verdier, Avant que j'oublie. Texte intimiste et autobiographique où l'écrivaine raconte la mort de son père tout en essayant de dresser son portrait. Il était tout à la fois Attila et amant fragile, racaille unijambiste, roi misanthrope et père poule. C'est l'histoire d'un homme abîmé par la vie, raconté par sa fille qui s'apprête à vivre désormais sans lui. Ce premier roman a été salué comme il se doit par la critique. Il a aussi reçu le prix envoyé par la poste de la fondation La Poste, avant que j'oublie, de Anne Police. C'est un coup de cœur partagé avec Oriane Jeancourt du magazine Transfuge, également présente avec nous ce matin. Le réveil culturel, c'est tôt le matin à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'abonnement au podcast. Émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la prise de son Éric Boissé.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Le soir où mon père est mort, on s'est retrouvé en voiture avec mon frère parce qu'il faisait nuit, qu'il était presque 23 heures et que, passé le choc, après avoir bu le thé amer préparé par l'infirmière et avalé à contre-cœur les morceaux de sucre qu'elle nous tendait pour qu'on tienne le coup, il n'y avait rien d'autre à faire que de rentrer. Finalement, avec ou sans sucre, on avait tenu le coup. Pas trop mal, pas mal du tout même. D'ailleurs, c'était bizarre comme on tenait bien le coup. Incroyable, si on m'avait dit. On avait rangé les placards, mis la prothèse de jambe, le gilet beige, les t-shirts et les slips dans deux grands sacs Leclerc, plié la couverture polaire verte tachée de soupe et de sang, fait rentrer dans la boîte à médicaments une boîte à sucre décorée de petits bretons en costume traditionnel, le crucifix de poche attaché à un lacet, à une médaille de la Vierge, à un chapelet tibétain et à un petit Bouddha en corne. Bonjour Anne Poli.
Bonjour.
Avant que j'oublie, donc, c'est le titre de votre premier roman et ça raconte la mort, l'enterrement et le deuil du père par sa fille, puisque vous êtes la narratrice. Et très vite d'ailleurs, on sait que Anne Poli est la narratrice, la fille de cet homme qui meurt dès la première page.
Oui, alors c'était un peu une volonté de raconter, en tout cas de faire correspondre le nom de la narratrice avec le nom de l'auteur et le nom du personnage du père avec le nom du père dans le réel, parce que c'était évidemment un ouvrage de mémoire et je voulais, c'était porter la mémoire de cet homme et dans la fiction, mais aussi dans la réalité. Voilà, c'était un flambeau, ce livre, à porter.
Parlez-nous de ce père. Vous voyez bien que je n'ose pas dire de votre père, mais du père tel que vous l'avez décrit dans votre texte, Anne Poli.
Alors, c'est un personnage de père comme il y en a tant, j'imagine, qui est à la fois qui est tout en contradiction et en ambivalence. Et évidemment, c'est le portrait d'un parent depuis les yeux d'un enfant. Donc, c'est aussi un portrait qui...
Pourquoi elle a quel âge, la Anne Poli du livre ?
Elle a une quarantaine d'années. Mmh. Voilà. Et en fait, l'idée, c'était que dans une période de deuil, ou au moment des bilans qu'impose la mort, il s'agit un peu de démêler le vrai du faux, les apparences du réel. Et quand un enfant essaye de décrire son parent, il a évidemment des choses qu'il a vues, des apparences, mais l'enquête serait pas complète, si je puis dire, s'il n'y avait pas...
Et en même temps, vous racontez la mort, l'enterrement, toutes les formalités à faire.
Oui, je raconte tout ça parce que c'était dans le réel, pour le coup, c'est des espèces de protocoles qui m'avaient paru tout à fait absurdes et comiques, à un moment aussi tragique que la mort. Ces choses-là semblent vraiment drôles et au départ, ce livre, c'était d'écrire cette absurdité, ces moments absurdes qu'engendrent la mort. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est transformé en tombeau, en portrait, en enquête. Et voilà, donc il y avait aussi tous ces éléments à décrire qui me semblaient... Les gens se hérissent quand je dis ça, mais plutôt drôle en réalité.
Ouais. C'est un texte intimiste, je le dis, parce que vous parlez de vous, des personnages qui partagent votre vie, de votre famille, d'un événement qui a dû être très marquant, Anne Poli. Et pourtant, effectivement, il s'adresse à tout le monde. Ça reste quand même un texte qui a été travaillé, je ne sais pas si c'est le mot, pour qu'il soit lu par les autres.
Alors en réalité, on peut pas dire que j'ai extrêmement cherché à ce que ce soit. J'ai cherché à ce que ce soit, en tout cas, des phrases précises avec des mots précis et des choses qui fassent rire, mais parce que c'est aussi ma position dans le monde, c'est-à-dire que le tragique, souvent, je trouve moyen de m'en amuser. Voilà. Et est-ce que je l'ai beaucoup travaillé pour que ça fasse rire ? Non, c'est une écriture qui s'est déroulée. Par association, en fait, j'ai commencé à tirer un fil, puis un autre, et puis c'est un peu venu tout seul. Alors, les gens me posent la question souvent de savoir si l'humour qu'on perçoit et les changements de ton, les espèces de d'embardés stylistiques qu'il y a dans ce livre, sont volontaires. En réalité, j'ai pas cherché à faire tim-boum à la fin des paragraphes exprès, c'est un peu sorti comme ça.
Mais depuis le début, vous saviez que ce texte, ce témoignage, allait être lu, c'était destiné à être publié.
Oui. Oui, mais en quoi il fallait que ce soit lisible? Je sais pas, j'ai raconté les étapes, si vous voulez.
Vous racontez donc la mort du père, et puis il y a un moment très, très poignant, c'est quand il faut ranger les affaires. Mmh. Et là, vous posez la question, mais qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Est-ce que cette lettre anodine est vraiment anodine? Est-ce que vous vous êtes posé aussi les mêmes questions quand il fallait écrire ce récit, cette expérience? Qu'est-ce que je mets dans ce livre et qu'est-ce que je garde pour moi? Quel est l'intime que je peux rendre universel ou du moins public dans un roman, et qu'est-ce que je garde pour moi?
La question s'est pas vraiment posée en réalité. C'est-à-dire que des choses m'ont semblé saillantes tout au long de... En fait, j'avais, pour écrire ce livre, j'avais une espèce de feuille de route constitué d'étapes avec des moments saillants. Les inventaires, je voulais les faire, parce qu'il y a beaucoup d'inventaires dans ce livre, des objets par milliers qui sont évidemment mis les uns à la suite des autres, et par effet de contraste, ça produit à la fois de la drôlerie et à la fois du tragique, parce que c'est toute la vacuité des affaires de quelqu'un qui a été là mais qui n'y est plus.
Donc ça, c'est pour l'inventaire.
Ouais, voilà. Et pour ce livre, c'est pas une question que je me suis vraiment posée, de savoir ce qu'il fallait raconter ou pas raconter. C'est un livre qui a été écrit avec j'avais une feuille de route avec des moments saillants que je voulais à tout prix décrire, qui m'avaient semblé soit drôles, soit amusants, et après la question de l'intime dans tout ça ne m'a pas forcément effleuré. Enfin, j'ai eu l'impression de raconter ce que j'avais à raconter. J'ai pas eu l'impression de dire ça, faudrait plutôt le garder. Après, c'est aussi une écriture qui est pudique, c'est-à-dire qui essaye de pas se vautrer dans quelque chose, qui essaye de rester un peu sur son quant à soi quand même, en dessinant et en suggérant plus qu'en décrivant.
Et finalement, de rester dans l'intime du début jusqu'à la fin, parce que à un certain moment, on suppose que vous allez parler aussi du milieu social d'où vient votre père, tout ce qu'il a subi dans sa vie, parce que il y a un côté inventaire, ça vous l'avez dit Anne Pauline, mais il y a aussi un côté qu'est-ce qu'il a traversé comme moment, comme siècle, votre père.
Oui, voilà. Alors, c'était important, quand on est un enfant, de remettre en contexte la vie de ses parents. Souvent, quand on est enfant et ado, on dit vraiment, ils sont nuls, ils comprennent rien, ils sont excessifs. Et puis après, quand on est adulte,
ils sont violents,
mmh, ils boivent comme des trous, etc. Et puis, en vieillissant, on comprend que tout ça, évidemment, c'est lié à un contexte, à des circonstances, à un milieu d'origine. Donc, je voulais redécrire cet endroit d'où venait le...
Mais non, mais ce qui est fort dans votre livre, c'est que vous le dites, vous le suggérez beaucoup plus qu'autre chose, mais jamais ça ne devient une explication pour expliquer le caractère de votre père, ce vieux père carcasse, comme vous l'appelez.
Oui, alors il s'agissait pas de tirer des conclusions définitives. En fait, c'était justement émettre des hypothèses. Par exemple, pour la violence, il s'agissait pas de l'excuser, mais il s'agissait d'essayer peut-être de la comprendre, de comprendre d'où elle venait. Est-ce qu'elle venait pas finalement d'un empêchement social, d'un mépris social? C'était une époque aussi où les hommes devaient être forts, conquérants, brillants, virils, et puis finalement j'imagine qu'ils ont été des tas à échouer à cette épreuve. Donc voilà, je voulais un peu essayer de faire le tour de la question, si je puis dire.
Un père que vous avez aimé, Anne Pauline,
oui,
que vous aimez toujours d'ailleurs malgré tout.
Énormément, oui, énormément. C'était comme c'était aussi une histoire compliquée, cette histoire familiale.
D'où le malgré tout, ouais.
Et que souvent, comme dans les familles, les choses compliquées, on ne veut pas en parler, on les met sous le tapis, dans l'armoire, dans le placard.
Et vous avez décidé de le mettre dans un livre.
Moi, j'ai dit que ce serait mieux pour tout le monde de le mettre dans un livre. Et que comme ça, on se serait bien souvenu une dernière fois avant d'oublier complètement.
Je vais vous demander de lire un extrait, parce que c'est votre premier roman, je rappelle, édité par Verdier, avant que j'oublie, Anne Pauline.
Il faisait froid mais beau. Un joli ciel bleu franc avec quelques nuages et un soleil d'hiver. Je me suis accoudée un instant à la passerelle de bois reliant la maison à l'escalier, là où il aimait se tenir pour fumer et observer les mouvements de la lumière dans le feuillage et les allées et venues des petits oiseaux. Là où nous avions eu parfois, en tirant comme des malades sur des clopes jamais assez fortes, les conversations les plus profondes et les plus banales, et où les silences qu'elles avaient parfois engendrés s'étaient naturellement transformés en séances de contemplation intense de la nature en contrebas. À cet instant précis, j'aurais donné n'importe quoi pour un dernier moment comme ça avec lui, à ne rien se dire de spécial en regardant dans le vide.
Avant que j'oublie, Anne Pauline, aux éditions
Verdier, parlez de vous, de la relation avec votre famille, parce que il y a bien sûr le portrait de ce père, puisque c'est le fil narratif de sa mort, son enterrement, le rapport qu'il entretenait avec ses enfants et très particulièrement avec vous-même. Mais à travers lui, il y a aussi la mère qui, elle, a disparu bien avant. Il y a aussi le frère, le neveu, la famille, votre ami, votre amoureuse. Tout cela est dans ce livre.
Oui, alors évidemment, c'est une galerie de personnages. C'est qui est là le jour où le pire vous arrive, où la mort vous tombe dessus. Donc il y a tous ces gens, alors les gens de la famille. Alors la mère déjà décédée, mais qui tout au long du livre apparaît un peu en bonne fée, enfin une espèce d'esprit bienveillant qui veillerait sur la situation. Et puis le frère, taiseux, distant, en colère. Alors ça, c'est amusant parce qu'évidemment, mon histoire, elle est singulière, mais elle correspond à d'autres histoires, à la fois universelles, puisque des tas de gens m'ont dit, mais enfin, ce frère, c'est le mien, mais enfin, ce frère, c'est moi. Voilà, ça a suscité quand même des espèces d'identification. Il y a les proches qui, voilà, donc c'est ce proche-là en l'occurrence qui est assez fuyant, ou d'autres qui au moment où ils devraient être là sont justement pas là. On a besoin d'eux, on a besoin dans des épreuves comme ça d'être entourés, et il y a des tas de moments où les gens se dérobent en réalité. Donc finalement, je me demande si j'ai pas gardé dans ce roman que les personnages qui étaient là pour de vrai.
À quel moment, Anne Poli, vous avez l'idée d'écrire, à partir de cette expérience, un livre?
En fait, c'était pas tellement prémédité, cette histoire-là. C'est que vous savez, moi, je voulais écrire depuis que j'étais enfant. Et puis, ça s'était pas très bien déroulé pour moi. J'étais un peu chassée du royaume des lettres au moment où j'arrive en prépa, on me dit que j'ai rien à faire là. Enfin bon, des tas de choses comme ça. Je voulais écrire depuis toujours. Et puis, j'arrivais jamais à monter dans le train de l'écriture. Et puis, donc j'ai fait tout un tas de choses pour que ce problème soit résolu, notamment de postuler au master de création littéraire de Paris 8. Mmh. Il fallait présenter un projet.
Avec Vincent Message,
Olivia Rosenthal, Christine Montalbetti, etc. Et donc je n'avais pas de projet à présenter, et donc je me suis mis devant ma feuille, et je me suis fait confiance, et c'est ces premières pages qui sont sorties. Et au départ, je me disais, bon, c'est pour le projet, je vais présenter ça, on verra. Et en fait, pas du tout. Ce truc a continué, et finalement, c'est devenu un livre au fur et à mesure.
Parce que la mort de votre père était proche, ou au moment où vous décidez de parler de cette période bien précise, c'est-à-dire la mort, l'enterrement?
C'était pas très loin dans le temps. Mais quitte à raconter quelque chose, il fallait raconter quelque chose d'un peu marquant, ou en tout cas quelque chose d'un peu saillant, pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Enfin, pour que ça marque un lecteur, ou que ça puisse intéresser quelqu'un. Et comme finalement il y avait beaucoup de romanesque, en tout cas de rocambolesque dans toute cette histoire.
Oh, il y a beaucoup de romanesque. Votre père, vous réussissez à le rendre romanesque.
C'est un héros, c'est un peu, ouais. Oui, c'est ça.
Et ce qui est bien, c'est qu'il garde aussi ses mystères à la fin du livre.
Oui, on peut pas tout savoir de quelqu'un. On peut en avoir des aspects. Il y avait une forme de puzzle à la fin du livre. Alors tout le début concerne un peu les apparences. Ce père que les gens connaissaient ou pas avait sur lui des apparences, même ce que la fille elle-même en connaissait, qui était très partielle. Finalement, cette connaissance s'épaissit avec une lettre qui arrive à la fin et qui permet à la narratrice de boucler la boucle en quelque sorte, et de revenir sur ce personnage de père qui était peut-être dans les apparences quelqu'un de violent et irréfléchi, de rustre, de taiseux, mais au fond qui était peut-être un poète empêché par des tas de choses, un travail, une époque, un milieu social.
Les livres servent à quoi pour vous, Anne Poli, par exemple, quand on vit une situation comme vous la racontez dans ce livre, c'est-à-dire la perte d'un père? Est-ce que les livres servent à quelque chose?
Oui, alors les livres, pour ma part, sont souvent des endroits où je cherche des réponses. Très souvent, je cherche des réponses dans les livres. Je vois que tel livre parle de tel sujet et j'y vais. Je vais voir ce que tel auteur aura dit de telle chose ou telle chose. Et souvent, j'en trouve, et peut-être que, sans vraiment le vouloir, j'ai fait un genre de vade-mecum pour ceux qui viendront après moi et qui perdront leurs parents. Il y a des proches et des moins proches qui m'ont écrit pour me dire que eux n'avaient pas perdu leurs parents, mais que ce livre leur avait permis d'avoir un avant-goût de
Alors du coup, quels sont les romans qui sont très importants pour vous, qui vous ont accompagné, qui vous ont aidé peut-être à écrire ce roman, mais bien avant d'écrire ce premier roman, Alpoli, à affronter les affres de la vie.
Ah bah c'est assez innombrable. Enfin ils sont innombrables. Je sais plus. J'ai beaucoup lu des choses un peu à la marge. Moi j'ai beaucoup lu de littérature gay, notamment par exemple Denise Cooper, Bruce Benderson, voilà des auteurs un peu comme ça, Amistad Maupin. Plus récemment, pendant l'écriture de ce livre, finalement j'ai pas lu beaucoup de choses pendant l'écriture de ce livre, pour pas m'auto-bloquer, c'est-à-dire des gens qui ont écrit sur le deuil, il y en a plein, mais je voulais pas non plus être là devant ma feuille à me dire, mais mon Dieu, ces gens ont écrit toutes ces merveilles, et moi, qu'est-ce que je fais avec cette petite histoire? Donc j'ai notamment lu un livre de Lydia Flemm, qui s'appelle « Comment j'ai vidé la maison de mes parents », qui est un livre, qui est un récit comme ça d'une psychanalyste qui décide de donner les objets qui appartenaient à ses parents, plutôt que de les jeter ou de les vendre. J'ai lu pas mal Janet Winterson aussi. Ça s'appelle « Comment on peut être heureux quand on peut être normal ?» C'est à l'Olivier. Et voilà, c'est l'histoire aussi d'une auteure-narratrice qui parle de sa mère qui a été plutôt maltraitante, mais qui, dans tout ce livre, cherche à savoir pourquoi cette femme était si rude avec elle et si bigote et si folle, en réalité, et pourquoi elle l'a fait souffrir.
Voilà. Ça donne envie, votre bibliothèque idéale, Anne Poli. Ceci dit, je vous pose cette question parce que votre livre est remarquablement bien écrit, il est littéraire, avant que j'oublie. Vous traversez donc ce moment tragique et en même temps inévitable de la vie, et ce n'est pas un livre qui vient à votre rescousse, c'est une chanson de variété. Et du coup, à cause de vous, ou grâce à vous, pour la première fois, on va écouter Céline Dion sur France Culture.
Je voudrais oublier le temps, pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père, parler à mon père.
Je voudrais parler à mon père. C'est un moment tragique et très beau dans votre roman Avant que j'oublie, Anne Poli.
Alors en fait, j'ai choisi de parler de cette chanson de Céline Dion qui s'appelle « Parler à mon père » donc, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la musique c'est très important dans ma vie, j'ai fait beaucoup de radio, j'ai parlé beaucoup de pop culture, tout ça, donc la musique surtout pop m'accompagne dans ma vie et je trouvais ça dommage de pas en faire profiter mes lecteurs.
Pas dans le genre branché pop, mais populaire quoi.
Oui, alors ça c'est des distinctions subtiles, comme vous savez. Uh-huh. Après, on peut dire que la populaire, Céline Dion, c'est vraiment le commun aussi. C'est-à-dire, si je vous dis je veux chercher ton âme dans le froid, dans les flammes, vous savez exactement tout de suite que c'est... Oui, ouais. Vous le savez tout de suite.
Anne Poli, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis journaliste, secrétaire générale de la rédaction dans un magazine féminin. C'est-à-dire que je corrige des textes qu'on m'envoie, et je les mets en forme, je les rattrape, je les répare en quelque sorte.
Pour réparer les textes?
Je répare des textes tous les jours. Alors c'est des textes sur des thèmes variés, mais sur des sujets de société, ou bien parfois aujourd'hui j'avais à gérer un texte sur le shampoing, vous voyez. Donc,
Et on entend le rire d'Auriane Joncourt. Auriane Joncourt, bonjour.
Bonjour, tant que vous ne me faites pas chanter Céline Dion, tout va bien.
Anne Poli, avant que j'oublie, ça a été un de vos coups de cœur de la rentrée.
Oui, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, un des vrais bons premiers romans de cette rentrée, et ça m'a fait penser, vous voyez, ce que je trouve très intéressant, c'est cette période que vous racontez, c'est-à-dire juste après la mort, ces fameuses périodes de deuil qui, d'ailleurs, dans certaines religions sont véritablement sacrées, et là, vous y allez justement pas avec un pas sacré, mais avec un pas, vous l'avez dit,
même assez... Même si le sacré est présent, et assez moqué, d'ailleurs.
Voilà, avec un pas assez libre et visiblement qui vous ressemble. Et ça m'a fait penser beaucoup à ce livre que j'aime beaucoup de Peter Handke. Dieu sait qu'on parle de lui en ce moment. Le malheur indifférent, où il questionne justement sa mère. Et sa mère, qui était un peu comme votre père, indéchiffrable, une femme assez empêchée, comme vous le dites, assez malheureuse. Et il revient sur cette vie en effet d'un milieu d'ouvrier. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que, à côté de quelle vie elle est passée aussi. Et ça, je trouve que c'est une très belle question à se poser.
Et ça se termine quand même avec une scène de vie, hein, dans la nature, avec une pie, avec la famille reconstituée. Alors, quand je dis la famille, Anne-Polly, vous insistez au fait sur votre homosexualité dans ce roman?
Oui, alors j'insiste, disons que c'est pas le sujet de ce roman, mais en l'occurrence, c'est l'endroit depuis lequel je parle. Et ce qui est amusant, enfin ce qui n'est pas tellement, qui ne l'a pas tellement été, c'est qu'au moment de ce deuil, on a eu à peu près au même moment les débats, les fameux débats sur le mariage pour tous. Et donc ça a eu un écho très fort au moment où je vivais ce deuil, cette espèce de mépris social dont on a été, dont la communauté LGBT a été l'objet, et avec un mépris social des gens qui décidaient pour nous, qui avaient un espèce d'écho avec le mépris social auquel le père avait été confronté, pour des raisons différentes hein, d'ailleurs. Mais c'était important pour moi de mettre en parallèle ces deux moments, surtout pour faire voir l'obscénité finalement de ces débats. Puisque à l'époque, je vous rappelle que sur tous les plateaux de radio, de télé, il y avait des gens qui discutaient, des psychiatres, des curés, des anthropologues, des sociologues, pour savoir si des gens de la même société allaient avoir les mêmes droits. Ce qui était quand même d'une obscénité sans limite, et qui, cette obscénité était amplifiée par le deuil que moi j'étais en train de vivre, justement. Donc je voulais recontextualiser.
On ne saura jamais si votre père était au courant, s'il avait une idée là-dessus
Si, bien sûr qu'il était au courant et ça l'avait pas gêné, si vous voulez. Enfin, ouais. C'était pas quelque chose qui était ni tabou, ni un problème, ni rien de tout ça finalement. Et ce qui était paradoxal, parce que c'était vraiment un homme qui était né à une autre époque, mais qui avait cette ouverture sur le monde, sur les autres. C'était quelqu'un qui accueillait volontiers un étranger chez lui, qui volontiers ne jugeait pas les autres.
Auriane Jeancourt, est-ce que vous avez d'autres coups de cœur à nous faire partager?
Écoutez, dans ce numéro de novembre
de Transfuge,
j'ai eu la chance de rencontrer Mircea Cărtărescu, écrivain roumain qui publie un des très très grands livres de cette rentrée qui est Solénoïde.
En tout cas très gros aussi.
Très gros, très ambitieux.
J'attendrai les vacances de Noël pour le lire.
Mais je vous assure que lorsqu'on plonge dedans, alors on fait une très longue plongée dans le Budapest, dans les sous-sols de Budapest, parce que c'est vraiment Mircea Cărtărescu, c'est l'homme du sous-sol, très imprégné par Dostoïevski, par Kafka. Il nous plonge dans une espèce de rumination d'un homme qui aurait pu être lui, si ce n'est que c'est un espèce de double noir, un double qui lui n'est pas devenu écrivain, mais qui raconte sa vie de professeur dans un collège à Bucarest, donc... juste après la chute du mur, un homme qui est habité par des fantasmes, et c'est là où Mircea Cărtărescu est exceptionnel, parce qu'il fait vivre cet imaginaire qu'il habite. Il est, si vous voulez, il y a des séances de lévitation, il parle avec des cafards géants. C'est un des très grands écrivains aujourd'hui de l'enfance, puisqu'il y a beaucoup d'enfants, ça se passe dans un collège. Et ce sont des enfants qui sont à la fois assez malheureux, assez brimés par une institution qui les traite mal, qui les méprise, et en même temps qui ont cette puissance de l'imaginaire qui irradie le livre. Et voilà, c'est un livre comme il y en a peu.
Solénoïde, ça veut dire quoi?
Alors, solénoïde, c'est un objet qu'il invente et qui, raconte-t-il, eh bien, serait dans les sous-sols de Bucarest et permettrait à certains personnages de léviter.
Et c'est édité
chez Noir sur Blanc.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Merci d'être passé dans le réveil culturel, Anne-Polly, pour votre premier
moment
remarquable et d'ailleurs très remarqué. La presse est unanime. Avant que j'oublie, c'est édité chez Verdier. Merci aussi à Auriane Jeancourt.
Merci à vous.
À bientôt. Passez une bonne matinée sur France Culture. On se retrouve demain.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Informer, témoigner, décrypter. Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
2 mois après sa libération par les autorités russes, Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien emprisonné durant 5 ans, parle pour la première fois à un média français. Il sera l'invité spécial des matins de France Culture en direct de Kiev ce lundi.
Les matins de France Culture à Kiev, ce lundi dès 7h. À retrouver sur franceculture.fr.
Ariodante, l'un des opéras les plus inspirés de Handel. Le mardi 26 novembre à 20h à l'auditorium de Radio France. Une version de concert d'Ariodante servie par les plus séduisantes des voix baroques, dont Marianne Krebassa. Au pupitre, Marc Minkowski à la tête de ses musiciens du Louvre. Réservation maisondelaradio.fr. Entrez au cœur du concert.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Et dès le début de ce journal, nous irons à Hong Kong, où la police a tiré à balles réelles sur des manifestants ce matin. Les médias locaux s'en font l'écho, alors que les affrontements continuent sur place, sur fond de barricades et de lutte pour la démocratie. L'Iran a de nouvelles ressources pétrolières, une découverte annoncée hier après-midi, même s'il est peu probable que le pays puisse en tirer de l'argent, vous comprendrez pourquoi. Et puis nous vous présenterons le monument inauguré ce lundi 11 novembre par Emmanuel Macron à Paris. Un monument pour les soldats morts en opération extérieure, une première en France depuis 1963. La police de Hong Kong a donc ouvert le feu contre les manifestants tôt ce matin, blessant au moins l'un d'entre eux selon les médias locaux et des vidéos diffusées en direct sur le réseau social Facebook. C'est la 3e fois en 5 mois de contestation que la police fait usage de tirs à balles réelles. Le 1er octobre dernier, un étudiant avait été touché à la poitrine. Il a survécu et il est aujourd'hui poursuivi en justice. Quelques jours plus tard, un garçon de 14 ans avait reçu une balle dans la jambe. Lui aussi a ensuite été arrêté. Cette fois, on ne connaît pas l'étendue des blessures du manifestant visé, mais les affrontements sont de plus en plus violents, comme nous le raconte Simon Leplâtre.
Le face-à-face est tendu entre les riverains, quelques manifestants et la police ce matin à Sai Wan Ho, à l'est de l'île de Hong Kong. 1h30 plus tôt, un policier qui tentait d'empêcher le blocage de la circulation a tiré 3 balles sur 2 jeunes manifestants. Un a été touché à la jambe et l'autre dans le ventre, au foie et à un rein. Sur une des vidéos de la scène, on voit un jeune homme vêtu de noir qui tentait d'empêcher l'arrestation d'un camarade s'effondrer sur place. Il n'était pas armé. Le week-end a à nouveau été tendu après la mort d'un jeune homme vendredi, blessé en marge d'un affrontement avec la police quelques jours plus tôt. Pour beaucoup de Hongkongais, la police abuse de la force. Madame Leung, la quarantaine, est sortie pour soutenir les manifestants.
Je suis très en colère, ils n'avaient pas besoin d'utiliser des balles réelles pour tirer sur des jeunes, sur un manifestant non armé. On a l'impression qu'ils ont maintenant des ordres pour utiliser des balles réelles. Maintenant, ils menacent les gens avec leurs pistolets un peu partout. Pour nous, c'est comme un massacre du 4 juin au ralenti.
Le massacre du 4 juin, c'était sur la place Tiananmen, à Pékin, en 1989. La référence est forte, mais elle illustre bien le sentiment de beaucoup de Hongkongais qui s'inquiètent de voir leur territoire autonome devenir chaque jour un peu plus une simple ville chinoise.
C'était Simon Leplâtre, envoyé spécial de RFI à Hong Kong pour France Culture. Un mandat d'arrêt a-t-il été émis contre le désormais ancien président bolivien Evo Morales? Quelques heures après sa démission, il le dénonce en tout cas et il évoque un coup d'État. Le dirigeant socialiste était à la tête de la Bolivie depuis 2006. Accusé de fraude par l'opposition depuis sa réélection il y a 3 semaines, il faisait face depuis à une contestation populaire sans précédent. Evo Morales a déjà obtenu le soutien de Cuba, de l'Argentine et du Venezuela. Le Mexique ce matin lui offre l'asile. En Espagne, c'est un nouveau casse-tête politique qui débute. Aucune coalition ne se dégage pour former un gouvernement après les élections législatives anticipées organisées hier. Les socialistes, emmenés par le Premier ministre sortant Pedro Sanchez, arrivent en tête devant les conservateurs. Aucune majorité toutefois ne se dessine. Et le scrutin a aussi et surtout été marqué par la poussée de Vox, parti d'extrême droite, quasi inconnu il y a encore un an. Il totalise 15% des voix en 3e position.
Un gisement de pétrole a été découvert en Iran. Un petit cadeau fait au peuple d'Iran. Voilà les mots du président Hassan Rouhani hier. Les réserves de ce nouveau gisement s'étendent sur 2400 km² et seraient estimées à 53 milliards de barils. Pourtant, la valeur de ce cadeau devrait rester modérée. Les sanctions américaines et l'isolement de l'Iran sur la scène internationale devraient rendre difficile la production et l'exportation de ce pétrole. Une manne financière inexploitable donc, d'autant que l'économie iranienne est déjà en grande difficulté. C'est ce que nous explique Fereydoun Kavan, universitaire et spécialiste des relations économiques internationales.
L'économie iranienne se trouve dans une situation, je dirais, catastrophique, parce que l'année dernière déjà, le taux de croissance en Iran, c'était -4,5%. Et cette année, en 2019, d'après les dernières prévisions du Fonds monétaire international publié il y a quelques jours, il y aurait de nouveau un taux de croissance négatif, c'est-à-dire que d'après le FMI, le taux de croissance en Iran en 2019 se situerait à -9,5%. Il faut ajouter aussi que, en raison de ces sanctions, l'Iran a subi une baisse considérable de sa monnaie, de la valeur de sa monnaie nationale, ce qui a accentué les tensions inflationnistes qui étaient déjà très importante en Iran, et le taux d'inflation officiel en Iran tourne aux alentours de 40%.
C'était Fereydoun Kavan, interrogé par Adrien Paluet pour France Culture. Après avoir rendu hommage vendredi dernier en toute discrétion aux agents des services secrets morts en mission, le président Emmanuel Macron inaugure cet après-midi un monument dédié aux soldats morts en opération extérieure. Il se trouvera à Paris, dans le parc André Citroën du 15e arrondissement. Un hommage longtemps attendu, Nathalie Hernandez.
Depuis la guerre d'Algérie, aucun mémorial ne leur était dédié. Cette quatrième génération du feu, comme l'appelle l'armée, a pourtant représenté des centaines de milliers de soldats. C'est en 2011 qu'un projet a finalement été retenu et une première pierre posée en 2017. Le monument est composé de deux éléments, une sculpture réalisée par Stéphane Vigny. L'artiste a eu très vite l'idée de dessiner six soldats de taille humaine portant un cercueil invisible.
Cette sculpture représente cinq hommes et une femme. Ils dessinent avec leurs mains la forme du cercueil, mais il n'est pas présent en fait, donc c'est un vide. Symboliquement, pour moi, c'était représenter l'absence, le manque, et c'était la meilleure manière de le traduire.
Afin d'honorer les disparus, mais aussi de permettre aux familles de se recueillir, un mur entourera la sculpture. Il portera les noms de ces 549 morts pour la France, dont celui du mari de Céline, mort en 2003 en Côte d'Ivoire. Un symbole essentiel pour cette veuve et sa fille.
C'est bien, c'est une reconnaissance quand même. De voir les noms donc de ces hommes qui ont payé de leur vie pour que les Français soient en sécurité. Moi, je sais que ma fille, ça lui fait plaisir qu'il y ait ce monument-là.
Un regret toutefois pour Céline et sa fille, qui vivent dans le sud-ouest, avoir été prévenues trop tard pour venir à Paris pour l'inauguration.
Avant cela, ce matin, notons que le chef de l'État présidera d'abord la cérémonie de commémoration du 101e anniversaire de l'armistice de 1918. Ce sera à l'Arc de Triomphe, comme de tradition. Emmanuel Macron ravivera la flamme sur la tombe du soldat inconnu. La marche controversée contre l'islamophobie a rassemblé hier 13 500 personnes à Paris. Des comptes du cabinet indépendant Occurrence pour Radio France étaient notamment présents lors de cette marche. Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise, Esther Benbassa, sénatrice d'Europe Écologie Les Verts, ou encore Philippe Martinez de la CGT. Comment être certain que les produits made in France sont bel et bien fabriqués en France? Voilà l'une des problématiques abordées ce week-end lors du salon du Made in France à Paris. Il se termine ce soir. Les exposants viennent se faire connaître du public en affichant leurs produits fabriqués dans le pays. Cela a de plus en plus de succès. Pour preuve, le Made in France représente 38 000 emplois et génère plus de 7 milliards d'euros par an. Pourtant, le marquage sur les produits n'est pas obligatoire, ce qui peut donner quelques surprises. En rencontre avec des professionnels lors du salon, au micro de Nouran Mahmoudi.
De l'avis de tous, dans les allées du salon, le Made in France plaît beaucoup aux consommateurs ces temps-ci. Mais dans le secteur des cosmétiques, le marquage est quasi inexistant. On ne sait jamais vraiment d'où viennent les produits qu'on achète. Clémence vient de lancer sa marque de crème pour le visage.
On a la liste des ingrédients qui est marquée sur le packaging, mais on ne sait jamais d'où ça provient, par qui c'est fait, etc. Et on a de grosses, grosses surprises.
Le marquage clarifie la provenance des produits, voire des ingrédients qui les composent. Sans lui, on peut vite se faire avoir et c'est ce qui est arrivé à Clémence.
Par exemple, la cire d'abeille que je voyais sur les documents Origine France, et en fouillant, en creusant, je me suis aperçue qu'en fait elle était récoltée en Chine, transformée en France, donc qu'elle devenait Origine France. Et c'est beaucoup de choses comme ça dans le milieu des cosmétiques, donc c'est un petit peu mensonger par rapport aux consommateurs, et c'est vrai que c'est assez occulte.
Ce manque de transparence commence à rebuter certains consommateurs dont l'exigence augmente de plus en plus. Dans d'autres secteurs tout aussi sensibles comme l'habillement pour bébé, le marquage est nécessaire, ne serait-ce que pour rassurer les consommateurs, selon Magali.
Ça rassure les parents, effectivement, qu'il y ait une provenance. Je pense que c'est un élément qui va rassurer et conforter dans l'acte d'achat. Ouais. Sur certains produits, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est important de le mettre, quoi. On travaille dans une démarche éco-responsable. Notre collection la fabrique nous-mêmes à Strasbourg. On va le mentionner que c'est fabriqué, effectivement, en France.
Les exposants réunis jusqu'à ce soir voudraient donc que le marquage devienne obligatoire, non seulement pour rassurer les consommateurs, mais pour donner une véritable valeur ajoutée à leurs produits.
Le temps à présent de ce lundi qui commence, Made in Météo France. Il sera encore marqué par beaucoup de grisailles et de la pluie également ce lundi, des Pyrénées jusqu'aux frontières belges, avec surtout des températures en dessous des normales de saison. 3 degrés ce matin à Strasbourg, 7 à Lille, 8 degrés en Île-de-France, 14 degrés pas plus ce matin à Marseille. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées à 6h40. Et Jacques, vous vous intéressez ce matin à l'un des ressorts les plus répandus et les plus inavoués des relations en société, l'envie et la jalousie.
Ça vous arrive, Clara, d'être jalouse ?
Je ne l'avoue pas.
Voilà, bravo. L'envie silencieuse croît dans le silence, disait Nietzsche. Et de fait, l'envieux fait tout ce qu'il peut pour ne pas être tenu pour tel. Il n'est guère intéressé par un transfert à son égard, ne souhaite pas une envie en retour. L'objet ou la situation sociale qu'il convoite chez autrui ne sont pas davantage le but premier de sa passion mauvaise, laquelle vise plutôt la destruction de cet avantage, et que l'autre perde sa belle voix, sa virtuosité, sa prestance ou sa vertu. C'est ainsi que le sociologue Helmut Schoeck présente le paradoxe stérile de l'envieux dans un ouvrage devenu un classique, L'envie, une histoire du mal, aujourd'hui réédité aux belles lettres. Des sociétés traditionnelles aux sociétés modernes, des mythes ou des religions à l'économie, le livre est une somme sur cette passion destructrice, dévorante et quasi universelle. L'envieux, au sens propre, s'exclut d'emblée de toute forme de compétition, résume-t-il, ce qui est en fait un élément parfaitement inopérant de l'émulation sociale. La jalousie peut naître dans une situation de concurrence entre égaux. L'envie est le résultat d'une frustration liée à l'inégalité de conditions qu'on cherche absolument à masquer pour ne pas perdre la face. Elle est la négation de la reconnaissance, de l'admiration ou du respect. La psychologie est éclairante sur les origines et le sens profond de l'envie, en particulier lorsqu'elle analyse le caractère universel de la jalousie entre frères et sœurs. Freud évoque dans Psychologie des masses et auto-analyse l'accès d'envie par lequel l'enfant plus âgé accueille le plus jeune. Mais constatant qu'il ne peut l'exclure de l'amour parental, il va progressivement s'identifier à lui. Dans leur groupe naît alors une conscience de masse ou de communauté, conclut Freud, qui trouve son prolongement plus tard à l'école ou ensuite dans ce qu'on appelle l'esprit de corps. Nul n'a le droit de chercher à se distinguer. Cette exigence d'égalité est la racine de la conscience sociale et du sentiment du devoir. Helmut Schoeck cite le cas des Indiens Sioux, où l'aîné d'une fratrie peut s'enorgueillir du temps que sa mère a laissé s'écouler avant d'enfanter à nouveau après lui, preuve de l'amour exclusif qu'elle lui portait, supérieur à l'attrait des rapports sexuel. Chez les Dakota, c'est la jalousie entre jumeaux qu'il s'agit à tout prix d'éviter. On devait les traiter sur un pied d'égalité absolue, de peur que l'envie ne soit fatale à l'un des deux. De nombreux peuples traditionnels ont érigé des tabous stricts à cet égard, et dans nos sociétés, on connaît les préventions adoptées à l'encontre du mauvais œil. La sagesse des proverbes l'illustre. Je cite « L'envie vous lorgne même par les yeux des petits-enfants » ou encore « L'envie ne veut rien manger si ce n'est son cœur ». Et pour signifier qu'on ne peut calmer l'envieux par des bienfaits ou des cadeaux, car on lui montre par là à quel point on lui est supérieur et combien facilement on peut se passer de ce qu'on lui donne, plus on fait de bien à l'envieux, plus il devient mauvais. Peut-être le meilleur antidote à l'envie est-il de cultiver le sentiment de la perte. Dans un beau livre paru chez Rivage sous le titre « Apprendre à perdre », Vincent Delcroix souligne que tout nous y incite, pour le meilleur comme pour le pire. Nous vivons avec ce qui est perdu, parlons avec les morts, errons dans nos souvenirs. Meurtre de masse, compassion pour ceux qui dans l'exil et les migrations perdent tout, mais encore conscience des désastres écologiques ou destruction des conditions matérielles d'existence. Notre époque vit la perte et le plus souvent la produit. Le philosophe évoque aussi les craintes fantasmatiques de perte d'identité culturelle. Je cite « La mythologie néo-païenne et le fantasme de la pureté biologique de l'origine ont convergé dans la crainte obsessionnelle et hystérique de la perte. Il nous faut apprendre à perdre sans que cette crainte anticipe névrotiquement la perte et ainsi empoisonne l'âme et tétanise la jouissance, écrit-il, mais autant que possible en réalisant sereinement cette condition plus qu'humaine. Le temps messianique nous y invite, mais aussi la vie quotidienne qui nous inspire la peur de perdre la richesse ou la vie, l'amant ou même la jeunesse. Projeté depuis l'avenir sur le présent, le temps de la perte l'épouse et le pénètre continuellement. C'est le même temps dédoublé qui se vit dans une expérience unique. Peut-être chacun de tes souffles est-il le dernier d'un autre, demande Elias Canetti dans Le Territoire de l'Homme. Vincent Delcroix évoque le rituel de la fête juive de Pessah qui laisse à la table une place vacante pour le prophète Élie. En réalité, commente le philosophe, cette place aura toujours dû rester vide et ce jusqu'à la fin du monde. Conclusion, celui qui manque est en surplus et non en moins. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, le président du Burkina Faso qui appelle les citoyens à lutter contre les groupes djihadistes.
Oui, Roch Marc Kaboré demande à tous les Burkinabés de soutenir l'armée dans son combat contre ces groupes qui ont largement débordé les frontières du Mali voisin. La semaine dernière encore, mercredi, des hommes en armes ont attaqué des bus à bord desquels voyageaient des travailleurs d'une mine à l'est du Burkina Faso. 38 sont morts et 60 blessés. Les soldats français de l'opération Barkhane ont bien du mal à stabiliser ce triangle à cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Triangle dit du Liptako-Gourma, 4500 hommes sur un territoire grand comme l'Europe ne peuvent pas tout. L'armée burkinabé, quant à elle, paraît totalement désorganisée et sous-équipée. Alors nous voulions ce matin, pour parler de la lutte contre les djihadistes au Sahel, zoomer au maximum dans les villages burkinabés où se sont mis en place des groupes d'autodéfense. Bonjour Romane Dacounia-Dupuis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorante à Sciences Po au Centre de Recherche sur les Relations Internationales, le CERI. Vous avez particulièrement étudié les Kogluéogo au Burkina Faso. Kogluéogo, ça veut dire gardien de la forêt ou gardien de la brousse selon les traductions. Quand sont-ils apparus et est-ce que c'était à mesure que se développaient et que sévissaient au Mali voisin les groupes djihadistes ?
Alors, les groupes sont apparus en 2014, en tout cas dans la sphère publique, notamment durant la période de transition qui a suivi la révolution civique qui a entraîné le départ de Blaise Compaoré. Alors, je dirais pas qu'ils sont apparus en lien avec la montée des groupes terroristes, mais plutôt en lien avec la perception d'une insécurité grandissante, notamment dans les zones rurales, liée avant tout au vol de bétail. Et donc, ce sont des groupes qui sont nés sur le plateau central, mais qui se sont ensuite diffusés à l'ensemble du pays, et qui dénonçaient en premier lieu donc une insécurité grandissante, les vols de bétail et une impunité qui régnait envers ces voleurs. Donc, plus globalement, il y avait une critique d'une absence de services publics et d'investissement de l'État dans ces zones rurales. Et donc se sont mis en place pour répondre à ce manque finalement ces groupes d'autodéfense qui sont donnés en premier lieu donc depuis 2014 à peu près pour mission donc de chasser en fait ces voleurs de bétail, de les arrêter et ensuite de les juger lors de jugements populaires. S'ensuivent ensuite des sanctions, donc tout d'abord des sanctions financières, donc on fait payer des amendes à ces présumés voleurs quand on les a reconnus coupables, et ensuite on les sanctionne physiquement et voilà, on les torture. Ces groupes sont
Ouais, Romane Dacogna-Dupuis, vous expliquez dans votre travail que, par exemple, ces groupes sont très identifiés, que tout le monde dans les villages sait où est le local qui accueille ces Koglou et Ogo. Et quand aujourd'hui le président burkinabé appelle les citoyens à participer à la lutte contre les djihadistes, est-ce qu'il veut parler de ces groupes d'autodéfense? Parce que jusqu'à présent, j'imagine que les autorités centrales devaient se méfier de groupes qui n'étaient ni organisés ni surveillés par elles et qui en plus contestent après a priori leur légitimité, parce que s'ils se sont constitués, c'est aussi en disant les autorités de toute façon ne peuvent rien pour nous, l'armée ne peut rien pour nous.
En effet, je crois que, alors je ne dirais pas que c'est une référence directe, puisque récemment quand même les Koglou Ogo ont fait parler d'eux en de mauvais termes, notamment le 1er et 2 janvier 2019, où ils étaient accusés d'avoir massacré plusieurs centaines de peuls. En tout cas, certains Koglou Ogo ont été accusés d'avoir massacré plus d'une centaine de peuls. En revanche, je crois que ça fait appel à une histoire un peu plus longue de l'implication des citoyens burkinabés à la construction et à la défense de la nation, héritée probablement d'époque de Thomas Sankara, au milieu des années 80, où en fait il y avait par exemple des comités de défense de la révolution locaux, qui étaient en fait des comités où des citoyens s'engageaient pour le maintien de l'ordre à l'échelle locale. Donc je crois que c'est certes l'exemple des Koglou Ogo, mais aussi plus longuement un appel aux citoyens burkinabés à participer à la construction de la nation et aujourd'hui malheureusement à la défense de celle-ci face à un ennemi intérieur et extérieur.
Et peut-être d'autant plus depuis la chute que vous citiez de Blaise Compaoré en 2014, après une révolution populaire, son régiment de sécurité, qui était en fait l'ossature des forces de sécurité burkinabé, a été dissous peu de temps après, ce qui a contribué encore à désorganiser l'armée. C'est aussi face à une inaction, peut-être une armée complètement désorganisée, en sous-effectif, sous-armée, que ces groupes se sont peut-être renforcés encore.
Exactement. Enfin, il est clair que le départ de Blaise Compaoré a entraîné une déstabilisation de l'appareil sécuritaire et notamment aussi une perte de lien avec des réseaux qui auparavant étaient entretenus par ce régiment de sécurité présidentiel et par Blaise Compaoré lui-même. Donc, il est clair que ça a généré, disons, un flou qui a permis à des groupes armés de s'installer. Après, voilà, le lien entre le départ de Blaise Compaoré et l'explosion des groupes terroristes est plus difficile à montrer directement.
Ouais, c'est vrai que certains disent que Blaise Compaoré avait établi une sorte de pacte de non-agression avec les mouvements djihadistes quand ceux-ci ont commencé à représenter une vraie force de déstabilisation dans le Mali voisin, mais pour l'instant personne n'en a la preuve. Est-ce que Romane Dacogna-Dupuis, aujourd'hui, ces groupes d'autodéfense et notamment donc les Koglou et Ogo sur lesquels vous travaillez, ont réussi? Est-ce que vous avez des informations selon lesquels ils ont pu, dans certains villages, repousser des assauts, des tentatives d'assaut ou juste de pénétration du village par des groupes djihadistes?
Alors, ce serait difficile de dire que j'ai des exemples très précis sur des combats qui auraient été gagnés par les groupes d'autodéfense, parce que déjà, matériellement, ils ne sont pas équipés pour aller, on va dire, en première ligne, en zone de front. Même s'il y a eu des petits affrontements, il me semble qu'ils sont plutôt sporadiques. En revanche, ce qui est très clair, c'est que les Koglou se sont investis de la lutte contre le terrorisme, même si ce n'était pas au départ leur raison d'existence, mais ils se sont sentis donc investis par cette mission, et notamment dans des rôles d'information. C'est-à-dire que ils sont utilisés à la fois par les autorités, mais aussi eux-mêmes prennent les initiatives de repérer des individus, surveiller, être vigilants au sein des villages, et donc reporter aux autorités d'éventuelles informations, qui ensuite les autorités décident si elles les traitent ou pas et si elles en font ou pas des renseignements. Donc c'est plutôt finalement ce rôle-là d'informateur qu'ils auraient, plus que de combattants directs sur les lignes de front.
D'ailleurs, pour rester à l'échelle locale, comment ces mouvements islamistes s'enracinent localement? Est-ce qu'on a une idée des étapes qui conduisent à la formation d'un groupe, sa prise de contrôle d'un village? Parce qu'on entend beaucoup dire que ces violences sont complètement exportées de l'extérieur, notamment du Mali, c'est ce que disent souvent les autorités d'Ouagadougou. Mais en quoi s'appuient-ils aussi sur des ressorts locaux? Et est-ce qu'en quelque sorte, ils peuvent être parfois en concurrence avec les Koglou et Ogo dans le recrutement des jeunes, comme une alternative?
Alors, je dirais tout d'abord qu'il y a une différence fondamentale entre les groupes d'autodéfense et les groupes djihadistes, qui est la remise en question ou non de l'autorité étatique. Et donc là où les groupes djihadistes s'attaquent à des symboles de l'État, que ce soit des mairies, des casernes, des écoles, mais également, comme on l'a vu malheureusement récemment avec l'assassinat du maire de Thibault et de ses camarades, donc il y a une remise en question de cette autorité, là où dans les groupes d'autodéfense, au contraire, cherchent à être des supplétifs de l'État et à demander plus d'État. Donc déjà, il y a cette différence majeure de positionnement face à l'autorité étatique. Et ensuite, bien sûr, qu'il y a des ressorts locaux, on va dire, d'engagement. Il faut rappeler que ce sont des zones, notamment l'Est et le Nord, sont les zones frontalières, qui sont beaucoup moins densément peuplées que le centre, par exemple, ou l'Ouest, où les infrastructures sont moins développées, où le taux de chômage était plus élevé que dans le reste du pays, notamment chez les jeunes. Et donc, il y avait un sentiment d'abandon, finalement, de l'État central, à la fois géographique, mais aussi, on va dire, au sens figuré, un sentiment d'abandon de cet État central et qui, à mon avis, constitue un terreau social fertile pour ces groupes terroristes.
Et c'est des conflits, des groupes djihadistes qui se greffent aussi ou pas, comme au Mali, notamment sur des conflits locaux, des conflits fonciers, par exemple, d'accès à la terre.
Oui, alors il y a bien sûr des ressorts locaux, conflits fonciers qui sont mobilisés. Il y a aussi, je crois, un discours sur la domination Mossi, donc qui est l'ethnie majoritaire et qui est l'ethnie qui est associée en tout cas au plateau central et au centre du pays. Donc il y a en effet un discours qui s'appuie sur des revendications qui préexistaient déjà dans ces zones un petit peu qui étaient considérées comme étant reculées et donc qui s'appuie bien entendu. Après, je pense qu'il y a aussi une force créatrice, c'est-à-dire que les groupes terroristes viennent aussi raviver ou viennent s'appuyer ou viennent créer même des lignes de force qui n'étaient peut-être pas forcément perçues comme ça au Burkina, contrairement au Mali où il y a clairement eu toujours, par exemple, des affrontements communautaires ou des conflits. Au Burkina, c'était quand même beaucoup moins présent et c'est plus nouveau ces conflits-là.
Et ce qui est nouveau, et en quelques mots pour conclure, Romane Dacunha-Dupuis, c'est aussi peut-être que des Burkinabés quittent leur village. Est-ce que c'est le cas dans les villages où vous êtes allés, que vous connaissez bien?
Oui, bien sûr. Bien sûr, les Burkinabés quittent le village et donc ça crée un exode massif. Il faut aussi rappeler que, enfin, il faut aussi dire que une des grandes conséquences aujourd'hui terribles de ces attaques terroristes, c'est le déplacement de plus de 500 000 personnes et qui crée beaucoup de difficultés puisque l'État ne peut pas gérer ces déplacés, qui a de la famine, qui a des problèmes de santé, des problèmes sociaux et qui sont dramatiques.
Merci beaucoup Romane Dacunha-Dupuis d'avoir été avec nous ce matin pour en parler. J'invite aussi les auditeurs de Radio France, de France Culture et de Radio France en général à écouter les reportages de Claude Guibal de la rédaction internationale qui en revient. Merci à vous, je mets vos travaux en lien sur notre site et très bonne journée.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
France Culture présente la soirée événement Apocalypse, la guerre des mondes, 1945-1991. Trois documentaires réalisés par Isabelle Clarke et Daniel Costel. Été 1945, alors que les Alliés célèbrent le retour de la paix, un rideau de fer tombe entre le bloc de l'Est communiste et le bloc de l'Ouest dominé par les Américains. C'est la guerre froide et la toute nouvelle arme nucléaire fait peser sur l'humanité la menace d'une nouvelle apocalypse. Apocalypse, la guerre des mondes, 1945-1991, demain dès 21h05 sur France 2. Un partenariat France Culture.
Il est 6h57 sur France Culture. Bonjour Hervé Gardette.
Bonjour Julie Gacon, comment allez-vous?
Mais bien et vous, c'est vous aujourd'hui qui officiez au matin, en tout cas pour la première partie. Et votre humeur du jour, Hervé, vous revenez sur la privatisation de la Française des Jeux, elle vous laisse un peu dubitatif.
Oui, peut-être faites-vous partie, Julie, de ces particuliers qui ont déjà acheté pour 200 millions d'euros d'actions de la Française des Jeux, c'est-à-dire environ un tiers de la part qui leur est allouée. De leur point de vue de boursicoteur, ils ont bien raison de l'avoir fait, dans la mesure où la FDJ est une entreprise à qui l'avenir ne fait pas peur. Sa clientèle n'est pas seulement massive, Il y aurait en France 29 millions de joueurs. Elle est aussi captive. Le perdant joue dans l'espoir de gagner un jour. Le gagnant joue dans l'espoir de regagner un jour. Mais si le hasard fait bien les choses, la privatisation des jeux de hasard défie un peu la logique. Plaçons-nous d'abord du côté de l'individu. L'actionnaire, on l'a vu, se frotte les mains. Mais que se passe-t-il lorsque celui-ci est aussi joueur? Eh bien, le premier a intérêt à ce que l'entreprise dans laquelle il investit soit le plus rentable possible pour toucher son paquet de dividendes. Il a donc intérêt à ce que le joueur qui occupe l'autre partie de son cerveau perde un maximum. Il parie donc contre lui-même. Imaginez un peu le drame intime en train de se nouer. Pourvu que je n'ai pas les 6 numéros gagnants du loto. Il me semble qu'il y a encore 6 numéros. Oui, mais la société y gagne, en tout cas si l'on en croit le message qui accompagne la campagne de privatisation. La FDJ est présentée à la fois comme une entreprise performante, ça on veut bien le croire, et utile à tous, ce qui agresse un petit peu plus l'oreille. Je vois pas très bien en quoi le fait de cocher des numéros sur une grille ou de gratter un ticket de morpion peut être utile à tous, sauf à considérer que la paix sociale s'achète aussi avec les jeux de hasard. Alors certes, la FDJ, Julie, redistribue une partie de ses gains à des projets liés au sport, au patrimoine, à l'insertion. C'est vrai que c'est utile, c'est même d'utilité publique, c'est même à ça que servent les impôts. Du coup, puisque c'est utile à tous, fallait-il vraiment privatiser? C'est ce qu'on appelle une question à 1 million d'euros.